la tour de télévision de Kiev a été bombardée. Donc c'est vraiment le signal que l'offensive sur Kiev commence de manière extrêmement brutale, bien sûr. Couper l'information, cela permet effectivement de casser la chaîne de commandement, ça permet de casser le moral, donc c'est un signal extrêmement violent de la part des Russes.
Deux journalistes invités de l'Instant M ce matin. Un journaliste de radio français, parti en Ukraine, et une journaliste de télévision ukrainienne, revenue en France. Mon premier s'appelle Omar Waman, vous connaissez bien sa voix et sa signature. Il fait partie des envoyés spéciaux de Radio France sur la zone de conflit. La seconde s'appelle Ina Shevchenko. Elle signe une tribune dans le numéro spécial de Ciné mensuel. Ciné qui consacre ce numéro à la guerre dans deux langues. Tous les articles sont en français et en ukrainien. Alors, Ina Shevchenko, elle présente le journal télévisé sur la chaîne ICTV, basée à Kiev. Elle se trouve actuellement en France et elle raconte comment ses confrères journalistes et les techniciens continuent là-bas de travailler. Ce sera dans quelques minutes. En attendant, j'ai donc appelé Omar Waman. Il se trouvait sur la route de Kharkiv avec son technicien. Je lui ai posé quatre questions très très simples, mais qui deviennent cruciales dans un pays en guerre. Comment se déplacer, comment s'abriter, comment se nourrir et surtout comment transmettre l'information.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Omar Waman.
Bonjour Sonia.
Alors Omar, première question, comment se déplacer quand on est en reportage en zone de guerre et là, en l'occurrence en Ukraine, comment on se déplace?
Alors nous... on a tout de suite pensé que la situation allait se dégrader très rapidement. On a envisagé le pire scénario, à savoir le scénario d'une guerre totale. Mm-hmm. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. On est parti de Paris en voiture le lundi 21. Il était 17h lorsque nous étions sur le périphérique de Paris, porte de Clignancourt, direction Kiev. Donc on a mis notre GPS, 2400 kilomètres, et on les a parcourus en 27 heures. Mmh. Nous sommes arrivés le lendemain, dans début de soirée, nous étions à Kiev, et nous avons pu franchir la frontière qui sépare la Pologne de l'Ukraine, et nous circulons avec un véhicule immatriculé dans le 9292 à Kiev. Donc on a sauté l'étape de la location de voiture. Il faut savoir que Kiev est une ville qui se bunkérise. Il y a des checkpoints partout. Donc ce véhicule est évidemment siglé. On a mis plein d'affiches, d'autocollants, presse, TV, radio, dans les deux langues, hein, en français et en ukrainien, pour bien circuler dans cette ville, parce que il faut savoir qu'il y a un couvre-feu tous les soirs aux alentours de 20h, qu'en journée, à chaque checkpoint, il faut ralentir parce qu'il y a des saboteurs, ce qu'on appelle des saboteurs, ce sont des cellules dormantes pro-russes qui mènent des actions dans la capitale ukrainienne. Et donc les combattants ukrainiens sont extrêmement vigilants. Mais quand vous arrivez avec un véhicule immatriculé en France et avec des sigles, un véhicule siglé presse, eh bien vous arrivez à franchir les checkpoints très facilement. Il faut juste rajouter un petit sourire.
Est-ce que c'est facile de trouver de l'essence, de refaire le plein, Omar ?
Alors nous, on a évidemment eu cette question à gérer. Il se trouve qu'on a repéré trois stations-service, qui sont des stations-service qui continuent à fonctionner à Kiev. Mais c'est évidemment le nerf de la guerre. Il faut savoir que nous sommes partis depuis Paris avec un générateur. On a prévu le scénario qui consisterait à ne plus avoir accès à l'électricité, à l'énergie. Donc on est parti avec un générateur. On a des bidons d'essence dans le véhicule. Et donc on a ces trois stations-service dans Kiev, éclatées dans la ville à différents endroits. Et régulièrement, on fait le plein, même si on a beaucoup d'essence. On se dit, tiens, la station-service est ouverte, profitons-en. Donc effectivement, c'est très très rare de trouver de l'essence. Mais il y a encore la possibilité de faire le plein.
Comment se déplacer, je l'ai dit, comment s'abriter?
Alors, il se trouve qu'à Kiev, il y a encore des hôtels ouverts. Alors, pas tous, hein, la plupart des hôtels ont fermé leurs portes, mais il y a encore des hôtels ouverts. Nous, on a passé plusieurs nuits à l'Intercontinental, qui se trouve véritablement au cœur de Kiev, près de la place Maïdan. Nous sommes au Mercure, pour rien vous cacher. Donc, on est parti ce matin. On s'est rapproché de la ville d'Irpin, qui est un des verrous qui mène à la capitale Kiev, et qui est une ville qui est aujourd'hui très disputée, où il y a des combats extrêmement violents. Il y a des hôtels, très peu de clients, beaucoup de journalistes, beaucoup de journalistes. Je pense que c'est un des conflits les plus couverts, les mieux couverts. La presse internationale, dans sa grande diversité, est là. Il y a beaucoup de confrères. Donc, c'est l'essentiel, effectivement, des clients ici sur place.
Comment se nourrir, Omar ?
Ben, il se trouve que dans les hôtels, il y a de quoi manger. Alors, sur les tables, il y a régulièrement des petits messages qui consistent à dire « Attention, ne prenez que ce que vous allez consommer parce qu'il faut rien jeter, il va falloir économiser. » Là, il y a des déclarations, notamment du maire de Kiev, qui a dit que en cas d'encerclement total, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure où je vous parle, les positions russes sont plutôt vers le nord, on peut encore s'échapper par le sud, mais en tout cas, selon le maire de Kiev, en cas d'encerclement total, la ville pourrait tenir une semaine à peine. Donc c'est un vrai problème. Donc il y a quelques supermarchés encore ouverts, les gens font des réserves. Font des réserves, notamment en produits de première nécessité. Nous-mêmes, hein, on a acheté beaucoup de choses. On a acheté de quoi manger, de quoi boire, au cas où on n'aurait plus accès au commerce de proximité. Voilà, là aujourd'hui, c'est une ville qui est en veillée d'armes, hein, Kiev. Donc, trouver à manger, trouver à boire, c'est compliqué, mais c'est encore possible aujourd'hui. Ouais.
Et comment transmettre, Omar Waman ?
Ben, écoutez, moi, je suis parti avec Gilles Gallinaro, qui est technicien à Radio France, et c'est très précieux parce que Gilles a pris une valise satellite et il a pris de quoi transmettre. Alors nous avons des cartes SIM. Vous savez que les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de transmettre à temps réel. Donc tant qu'on a Internet, on peut transmettre. On a aujourd'hui encore Internet. On a prévu une valise satellite au cas où Internet ne fonctionnerait plus. Donc on a encore les moyens de transmettre et c'est le nerf de la guerre, hein. Nous, on s'est retrouvés au début du conflit. On remontait depuis le Donbass vers Kiev et donc on accompagnait en quelque sorte. Et c'était... assez incroyable, les premiers déplacés de la ville de Kharkiv, qui était la première ville littéralement prise d'assaut, puisqu'elle se trouve à 30 kilomètres environ de la frontière russe. Kharkiv, c'était la capitale de l'Ukraine à l'époque de l'Union soviétique, donc c'est une ville qui revêt deux importances côté Moscou, c'est l'importance stratégique et évidemment l'importance symbolique. Et les premiers déplacés, eh bien, on était dans ce flot-là, on est monté en direction de Kiev et on a pu transmettre vraiment à temps réel l'arrivée vers cette frontière entre la Pologne et l'Ukraine de ces déplacés qui aujourd'hui sont des réfugiés.
Ma dernière question, Omar Waman, s'il le faut, vous abandonnerez la voiture ?
Oui, en fait, on s'est dit que le véhicule de Radio France, et c'est vraiment le meilleur choix. On a fait vraiment le meilleur choix. Et d'ailleurs,
vous le voyez avec
ça me
les
fait
confrères.
Sourire parce qu'on nous a pris un peu pour des zinzins. Ils partent avec un véhicule depuis Paris, 2400 kilomètres avec un générateur. Voilà, nous on a de l'expérience, on a connu d'autres conflits et on sait que quand c'est la guerre, il faut prévoir tous les scénarios. Donc le véhicule nous sert, il est très très utile. Et là, à l'heure où je vous parle, il marche, il fonctionne. Et s'il faut, on l'abandonnera. Ce n'est qu'une voiture. Ce qui compte, c'est notre sécurité, la sécurité de Gilles et moi. Gilles Gallinaro était en vacances. Il a interrompu ses vacances pour couvrir cette guerre. Et moi, je me suis tenu prêt parce que je considère que ce conflit va au-delà de... En tout cas, voilà, les événements l'ont prouvé, va au-delà de la seule question de l'Ukraine. Là, il en va de l'avenir de l'Europe.
Merci beaucoup, Omar Waman, d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter ces gestes et ces actes tellement fondamentaux quand on est en reportage et sur un terrain de guerre. À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Voilà, et tous les correspondants de Radio France sont à retrouver, ils se relayent les uns les autres dans les journaux de la rédaction. Et puis aussi, tous les soirs, dans Un jour dans le monde, Fabienne Sintès à 18h20. Ce soir, tendez l'oreille, on continuera de parler de journalisme et d'information, puisque Fabienne reçoit une consoeur russe journaliste à la rédaction de Novaya Gazeta. Ce sera à 18h20.
L'instant M sur France Inter.
Alors nous sommes en ligne avec Inna Shevchenko. Inna Shevchenko, elle est journaliste, elle est présentatrice d'un journal télé, d'un magazine d'infos en Ukraine. Elle travaille là-bas pour la chaîne ICTV. Il se trouve qu'elle est mariée à un Français et que donc elle a l'habitude de voyager entre son pays et le nôtre. Le hasard fait qu'elle est arrivée en France 12 heures avant le déclenchement du conflit. Bonjour Inna Shevchenko.
Hello Sonia.
Bonjour Sonia.
Alors comment la chaîne continue-t-elle de travailler depuis le déclenchement du conflit, Inna Shevchenko? Comment vos confrères qui sont restés sur place continuent-ils de travailler et à quoi ressemble l'antenne aujourd'hui?
Now it's a big trouble, big mess.
Mais c'est gros problème, gros désastre parce que nous sommes à Kiev et vous savez qu'à Kiev, il y a des bombardements incessants, il y a des missiles russes qui frappent les bâtiments.
Chief decisions that who works they stay.
Les chefs décident qui doit travailler et qui ils restent à l'antenne. Il y a un petit hôtel à côté de du bâtiment et ils peuvent venir rapidement pour être à l'antenne. Mais la plupart des gens dorment par terre dans les cabines. Ils fonctionnent, ils travaillent par terre parce qu'ils ont peur d'être devant les fenêtres. Et 20 fois par jour, ils doivent courir vers les caves parce qu'à chaque fois, il y a une alerte aérienne de l'armée russe. Donc, c'est un travail extrêmement compliqué, très difficile. Ils ne peuvent pas travailler dans les studios habituels. Ils travaillent maintenant à partir des caves, sans décor. Mais au moins, ils sont en sécurité parce que, vous savez, ils doivent tout finir et puis s'enfuir après. Et les canaux en Ukraine, tous les canaux, toutes les chaînes, comment l'expliquer?
C'est comme
un télémarathon, vous savez.
C'est
tout le temps, sur toutes les chaînes, en même temps. Il n'y a plus besoin de changer de canal parce que vous voyez exactement la même chose de différents journalistes. À chaque fois, les équipes changent. Mais tout le monde se succède. Vous voyez tous les canaux toutes les chaînes sur le même canal,
oui.
En fait.
Est-ce qu'il existe des chaînes publiques en Ukraine ou est-ce que l'audiovisuel est essentiellement privé?
Nous avons une chaîne publique et les autres sont des chaînes privées.
Est-ce que le média radio est important en Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens ont le réflexe d'écouter la radio en période d'information intense?
Oui, principalement les gens comme ma maman, mon papa, ils sont habitués à écouter la radio. Et pour eux, c'est très difficile d'avoir de l'information à partir de la télé parce qu'il y a des images horribles et ils préfèrent écouter la radio.
Et les radios aussi continuent d'émettre?
Ah oui, oui.
Certaines
zones d'Ukraine qui ont été occupées par les Russes, certaines régions, oui. Je sais que maintenant, en partie, il n'y a plus de signal à partir de la télé ou des radios ukrainiennes. Mais les services font tout ce qu'il faut faire pour pouvoir renouveler le signal, réémettre.
Inna Shevchenko, bien avant le déclenchement du conflit, vous étiez déjà sur une liste noire de journalistes qui étaient dans le collimateur du Kremlin, si je puis dire.
Yes, it's true. I was in blacklist.
Oui, c'est vrai. J'ai vu des listes noires de terroristes du Donbass. Sur certains sites qui s'appellent Tribunal, et ils y ont mis beaucoup de journalistes qui disent la vérité au sujet de la situation.
Et c'est votre cas?
Yes, it's my case.
Oui, c'est mon cas, exactement, oui.
On sait que la messagerie Telegram est très 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 importante en Ukraine, Inna Shevchenko, que c'est un canal d'information qui reste vital?
Oui, on a Telegram, cette messagerie, et beaucoup de canaux ont été créés pour l'information, pour informer les gens, principalement notre gouvernement, les services du gouvernement, le ministère de la Défense, toutes ces structures ont créé des canaux officiels où ils donnent de l'information vraie. Parce que dès le début de cette guerre, la Russie fait beaucoup plus de fausses nouvelles que précédemment. Il y en avait déjà beaucoup avant, mais maintenant, ils ont créé beaucoup, beaucoup de fake news. Ils essayent de semer la panique. Et pour dire que tout est occupé, vous devez vous rendre, la Russie est arrivée partout. Ils essaient de faire peur à tout le monde et pour que les gens perdent cet état d'esprit de lutte. Et nous, nous luttons contre cela et on vérifie tout. Et le but le plus important de tous les journaux, de tous les journalistes qui sont liés les uns aux autres, c'est de donner de l'information vérifiée et de vérifier l'information.
Est-ce que vous avez des confrères journalistes qui sont au front?
Oui, je connais quelques collègues qui ont rejoint la défense territoriale. Et c'est comme des civils, quoi, qui ont eu un entraînement et ils ont rejoint l'armée pour pouvoir se battre.
Je vous remercie beaucoup.
Voilà, c'est les journalistes sont plus en danger parce que ils veulent montrer aux gens ce qui se passe, donc ils s'approchent évidemment très très près des lignes de front. Et j'espère que tous mes collègues vont rester en vie et je leur souhaite bonne chance.
Merci beaucoup, Inna Shevchenko.
Thank you so much.
Voilà, la tribune d'Inna Shevchenko est à lire dans le dernier numéro de Ciné mensuel en kiosque qui publie en français et en ukrainien chacun de ses articles. Je tiens à remercier par ordre d'apparition nos cousins techniciens de France Info. Sachez que l'actualité mobilise tous les studios en ce moment. Du coup, ils nous ont hébergés pour qu'on puisse échanger avec Omar Waman. Merci aussi à Michel Zlotowski qui a traduit Inna Shevchenko et à Anne-Laure Cochet, technicienne, la fée des potards. qui a réalisé des merveilles. Un petit mot aussi pour vous donner rendez-vous ce soir chez Laure Adler, Laure Bleue. Laure Adler reçoit deux écrivains. Le premier est français d'origine russe, il s'appelle Yegor Gran. Et la seconde est une écrivaine russe, elle s'appelle Ludmila Olitskaya.